bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadourjani, Daniel Morin,
bonjour monsieur.
Albert Algout,
bonjour.
Jérémy Crédville.
Bonjour.
Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau. C'est un peu mou, ces applaudissements. Ah, ouais.
Allez, les gars,
invités, c'était sur mon bonjour.
Fabienne Berthaud et Cécile Le France.
Bravo.
Bravo. Bonjour.
Et tout à l'heure, je le dis maintenant, nous recevrons Corinne Sombrin, puisqu'elle signe Mon initiation chez les chamans, et c'est justement sa vie que vous avez racontée, Fabienne Berthaud, incarnée par Cécile de France. Merci d'être là, en tout cas, toutes les deux.
Merci à vous.
J'espère que
Merci.
Vous allez bien dans un premier temps.
Oui, bon, un petit peu grippé, mais ça va.
C'est la saison.
Oui.
Voilà, quand on passe comme ça de l'été à l'automne, généralement, c'est là où ça arrive.
C'est le docteur Nagui.
Vous avez comment...
On aura tout vu.
Comment êtes-vous tombé dans la vie, dans l'histoire de Corinne Sombrin?
Alors, c'est plutôt le sujet qui m'a choisi, je dirais, parce que c'est mes productrices, pendant que j'étais en train de mixer mon précédent film, qui m'ont dit, écoute, on vient d'acheter les droits d'un récit qui s'appelle donc Mon initiation chez les chamans, tu devrais le lire, c'est peut-être pour toi. Et effectivement, je l'ai lu en 2 heures.
Pourquoi chaman et vous, ça irait ensemble?
Je sais pas, alors.
Qu'est-ce qu'elles ont comme image?
Si, il y avait quelque chose dans Sky, c'était qu'il y avait une vieille indienne. Et j'étais allée voir un peu les Indiens et les natifs américains en Arizona.
D'accord. Donc là, la Mongolie,
donc,
vous pouvez trouver écho.
Et donc, la fibre, je dois avoir un terrain sensible qui arrivait directement vers moi. Et c'est comme ça que j'ai eu le sujet.
Une vie incroyable qui est racontée dans ce monde plus grand, un monde plus grand qui sera en salle le 30 octobre. Cécile de France, vous saviez quoi du chamanisme avant de...
Oh, rien.
Vraiment?
Non. À part que je ne savais pas, c'est en rencontrant Corinne qu'elle m'a raconté que les Tsatans, ce peuple nomade sibérien chez qui nous avons tourné, sont les ancêtres des Indiens d'Amérique. Et moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours raccroché avec leur philosophie, leur vision du monde, de la nature. Donc peut-être qu'aussi, c'est le sujet qui m'a peut-être aussi choisi.
Puisque vous dites depuis que je suis toute petite, imaginons que vous ayez un enfant de 7-8 ans devant vous, comment vous lui définiriez le mot chaman? Vous diriez quoi?
C'est un médiateur, un messager qui est l'intermédiaire entre le monde visible et invisible et qui, grâce à ses capacités sensorielles, extrasensorielles, arrive à rentrer en contact avec les esprits des arbres, des animaux,
donc vous dites
des
pas,
défunts.
Vous dites pas c'est un sorcier, vous dites pas c'est un
non,
magicien.
Non, c'est un philosophe, un psychologue,
un druide autrefois peut-être.
D'accord. Non, c'est pour ça que j'ai pris un enfant de 7-8 ans parce que les mots que l'on choisit font souvent référence à au monde de l'enfance ou à ce qu'il connaît dans les bandes dessinées. Donc, comme, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Druide, c'est vrai que même dans Astérix, le panoramique peut passer par moments pour un magicien, un ensorceleur aussi, puisqu'avec sa potion magique, on peut pas dire qu'il est.
Oui, il est un peu chaman parce que c'est lié à la nature, à savoir les plantes, les herbes, tout ça.
Sauf que le chaman,
c'est une forme de chamanisme.
Ouais, se laisse quand même investir par une forme d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme.
Une possession même.
Temporairement, une forme de possession, alors que le druide dans Astérix, à part touiller la potion, on le voit pas trop.
Ne méprise pas Panoramix.
Il y a des gros
le chaman, ça fait beaucoup plus rêver, en fait. Je trouve que c'est.
Oui,
ça,
mais
ça
je,
amène
non, c'est pour ailleurs. Ça que je le disais pour un enfant de 7 ans, parce que employer le mot chaman, et puis il y a aussi ce côté très, 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 très branchouille, chamanisme, chaman. On le dit et on le définit pas.
Ce mot, en fait, c'est qu'il est vulgarisé aujourd'hui. Il y a plein de gens qui disent je suis chaman, tout le monde se désigne.
Oh, ben,
on en rencontre beaucoup.
Et
en fait, le truc, c'est que c'est pas, on ne décide pas de l'être. Ouais. On est désigné comme.
Très bien. Et... on va en parler en tout cas avec notamment le parcours aussi de Corinne Sombrin, donc qui signe son livre chez Poche, Pocket, pardon, j'ai dit Poche, c'était en anglais. Chez Pocket,
mon
initiation chez Chaman, c'est fou. D'abord, des questions concernant nos invités Fabienne Berthaud et Cécile de France. Comme petit boulot, Cécile a été jeune fille au père et plus originale.
C'est la réponse.
Non. Plus original que fille au père.
Elle promenait des chiens.
Petit boulot. Non. Plus original, je t'ai dit.
Elle promenait des vieux.
Tu promènes pas la même chose.
Ouais, c'est vrai. Non.
Plus original, mécanicienne.
Non.
Jeune fille au père, mais pas à l'étranger, quoi, non?
Un boulot qui est dit plutôt pour homme?
Un boulot. Non, c'est pas ça, c'est un boulot qui est plutôt. Qui est du monde du spectacle, on va dire, dans un premier temps.
Acrobate.
Caissière. Alors, on est du domaine.
On est du domaine du cirque, trapéziste.
On est du domaine du cirque, on est du
clown.
Alors, pas clown, non.
La femme qu'on coupe en deux.
Madame Loyale.
Non.
Femme au but. Ça, c'est chouette, ça.
Non, quelque chose de spectaculaire, quelque chose.
Trapéziste.
T'as dit quoi?
Elle crachait du feu.
Oui,
exactement.
Ouais.
Bon sang.
Incroyable.
Cracheuse.
C'est dommage, j'aurais mis dans le film. Ah
En plus, avec la vodka qu'elle boit, ça pouvait marcher, ouais.
Dans le film, tu parles?
Oui, bien sûr.
Ah, oui, parce que là, non,
je connais pas Cécile et puis je me rappellerai pas.
Cracheuse de feu.
Il faut savoir pulvériser.
Dans le quartier latin, c'est
oui,
ça?
Oui. Oh, un peu partout, oui, en Belgique d'abord, sur la côte et puis.
Près des champs de paille.
Est-ce que c'est quoi? C'est de l'essence?
Oui, c'est du pétrole qu'on met dans les lampes. Mais c'est pas très compliqué à faire, mais c'est très dangereux. Je déconseille à tout le monde de le faire.
Oui, parce qu'il peut y avoir un retour de flamme et de vent, c'est
aussi,
ça?
Aussi, puis on absorbe beaucoup de pétrole, on transpire du pétrole, on fait pipi du pétrole. c'est très mauvais pour la santé.
Et comment on se retrouve à faire ça, pardon?
Bah, j'étais amoureuse d'un mec qui jouait du... d'un mec qui jouait du djembé dans la rue, et voilà, et on gagnait notre vie comme ça.
Non, mais vous auriez pu faire du didgeridoo, quoi.
Oui, ça aurait craché les
poumons. Pour les poumons.
Pendant le tournage de Francky, le premier film de Fabienne Berthaud, pourquoi les gens ne se rendaient-ils pas compte qu'un film était tourné pendant
parce
le
qu'elle cachait les caméras.
Mais cachait les acteurs.
Les caméras étaient planquées.
Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que c'était si petit.
Mais j'avais pas d'équipe. On était deux pour faire le film.
Vous passez inaperçu.
On a tout fait avec juste une amie qui faisait les beaux-arts de Cergy. Et on était deux pour faire ce long métrage. C'est pour ça que j'ai mis 3 ans, je pense.
Est-ce qu'on a le droit de filmer comme ça sans être vu ou reconnu?
Ah, mais j'ai jamais fait ça. J'avais l'autorisation des psychiatres, des médecins. J'ai tourné essentiellement dans un hôpital psychiatrique à La Chênaie et j'avais l'accord de tout le monde, justement.
D'accord.
Mais c'était.
Mais la discrétion était.
Apporter
de la fraîcheur à ce que vous tourniez, finalement.
Probablement, mais c'est surtout que je n'avais que les moyens d'avoir une petite caméra grand public, mais tout était officiel et dit.
Et quand on est actrice, Cécile, est-ce que le fait qu'il y ait 30, 50, je sais pas combien de personnes derrière une caméra pendant que vous tournez une scène, ou qu'il n'y en ait que 4, 5, est-ce que ça change la manière de jouer aussi, ou le rapport à la caméra?
Non, pas spécialement.
Les équipes réduites, l'expression équipe réduite, justement.
Oui, non, mais une fois qu'on est concentré, qu'on est dans une bulle, dans un état de conscience modifié aussi, d'ailleurs, c'est une sorte de transformation de soi. Et non, l'important, c'est la relation avec le réalisateur. Et ce qui est génial avec Fabienne, c'est qu'elle est elle-même à la caméra.
Oui.
Donc, elle nous cadre, elle nous parle pendant les prises, elle nous donne des indications, des fois...
Insupportable, insupportable.
Elle est très dirigiste.
Ouais, mais c'est ça que tous les acteurs aiment avoir en face d'eux, quelqu'un d'exigeant qui sait exactement ce qu'elle veut. Mais elle va vraiment aller chercher ce qu'il y a de plus profond, de plus intense, de plus beau en vous. Donc, autant se laisser guider.
On peut comprendre qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui sache ce qu'il veut ou ce qu'elle veut.
Ah oui, rien que
plutôt quelqu'un qui dit, vas-y.
Ah oui, qu'un réalisateur qui est tout mou et qui dit, oui, c'était bien. Ok, suivant. Non, c'est, ça nous fait grandir. En tout cas, là, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec Fabienne. Ouais.
Pourquoi, à l'âge de 12 ans, Cécile de France s'est-elle rasé les cheveux?
Les poux,
on ne dit pas qu'elle avait pris feu, non, voilà, ça, j'attendais ça.
Non, les poux.
Pour rentrer dans les
contestations.
Non.
Pour être sans genre, quoi. Pour passer avec les garçons, pour aller dans les vestiaires des garçons.
Pour soutenir quelqu'un.
Non.
Parce que ses cheveux avaient brûlé.
Non, on l'a déjà dit, ça.
Parce qu'elle voulait ressembler à quelqu'un en particulier.
Non.
Elle avait loupé une coloration.
Elle trouvait ça jolie.
Au contraire.
Elle voulait pas devenir une fifille avec des cheveux longs.
Parce qu'elle ressemblait à quelqu'un.
Elle veut pas ressembler.
Elle ressemblait à Michel Drucker, elle la confondait.
C'était pour changer de peau.
Elle jouait un biopic.
Changer d'identité.
De Yul Brynner.
Non, elle avait 12 ans.
12 ans.
12 ans.
Bah, il y a eu 12 ans aussi.
C'était pas pour jouer un rôle.
Ah,
c'est pour éviter un rôle.
Pour devenir quelqu'un, pour se transformer.
Parce que tout le monde avait les cheveux longs.
Non, c'est pas pour jouer un rôle.
Parce qu'elle se sentait mieux comme ça.
Mais c'est quoi l'inverse?
C'est pour ne pas jouer un rôle.
Bah ouais,
pour ne pas jouer un rôle.
Donc,
Pour éviter un rôle.
Tu entres pas dans une pièce, tu fais quoi?
Tu sors de la pièce pour sortir.
Merci.
Mais en même temps, c'est tordu ta question.
Et tu fais pas ça à chaque fois quand même, tu vois, parce que regarde, elle a encore des cheveux.
Ils sont plus courts que dans le film.
Oui, c'est vrai.
Ils sont plus courts que dans le film. Donc c'était ça. En fait, vous étiez marqué par cette pièce que vous aviez jouée à 12 ans et vous vouliez plus qu'on vous en parle. En fait, c'est revenir vous-même.
C'était ma première expérience avec un personnage et en fait, la seule manière que j'ai trouvé de couper pour revenir à, d'une manière hygiénique, on va dire, à ma vie, à moi, ben voilà, ça a été de me couper les cheveux. C'était un peu violent, mais...
C'était quoi, rasé carrément?
Non, mais j'avais plus quelques centimètres sur la tête, alors qu'avant, ils étaient
genre
très
demi-mour, genre,
oui,
genre,
voilà,
genre Morin.
Moi, elle les a pas coupés, je te rappelle. Pour son film Francky, pourquoi Fabienne Berthaud a-t-elle perdu son premier producteur?
Parce qu'elle lui montrait quelle caméra elle allait utiliser.
Non.
C'est en forêt.
C'est je sais pas si c'est une fâcherie. En tout cas, vous avez changé de producteur. Fâcherie?
Bah, j'ai pas eu de producteur.
D'accord.
Je l'ai produit toute seule. Ah,
ils étaient pas d'accord sur quoi? Sur le casting, le budget, le choix du sujet, tout ça, quoi.
Non, enfin, sur le casting, c'est-à-dire que.
Il ne voulait pas de Diane.
Diane Kruger.
Il ne voulait pas de Diane Kruger parce qu'elle n'avait jamais tourné avant.
Qui ne veut pas de Diane Kruger?
Bah oui, mais parce qu'elle n'était pas connue, elle n'avait jamais tourné un film. Et on disait, mais non, les mannequins ne jouent pas bien, tout ça.
Ah, elle avait cette image de mannequin, d'accord.
Bah, elle était.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc,
elle était comédienne
donc,
aussi.
Et moi, elle n'était pas encore tout à fait. Hein. Elle n'avait jamais tourné, elle avait fait juste.
J'avais oublié qu'elle avait été
mannequin. Florent. Ouais. Oui, elle est maintenant, c'est bien.
J'avais zappé. Oublié.
Et donc j'ai dit bah si tu veux pas d'elle moi je veux c'est elle donc on va se quitter et puis je vais faire le film sans toi.
Mais c'est dingue, c'est-à-dire que vous prenez le risque de voir peut-être le projet tomber à l'eau parce qu'un producteur quand même son boulot c'est d'aller chercher le financement ou de prendre lui-même un risque financier pour monter un film parce que vous étiez convaincu de votre casting.
Ben oui, parce que moi, je pense qu'il vaut mieux croire en ses intuitions que d'écouter les autres, où c'est pas forcément les bonnes directions. Je suis comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça.
C'est son côté chaman.
Et j'étais persuadée que Diane aurait une grande carrière en plus. C'est ce qui fait que notre amitié est toujours là, je pense aussi.
Vous n'êtes pas trompé, en effet. Cécile de France est très écolo, au point d'avoir utilisé pour son fils quoi?
Des couches lavables.
Jetables, ouais.
Exactement. Non, pas lavables, biodégradables.
Oui, les deux. J'ai essayé les lavables, mais le problème des lavables, c'est qu'il faut utiliser beaucoup d'eau, il faut les faire sécher. Donc finalement, les couches en fécule de maïs, et même sont mieux pour les fesses de bébé, puisque ça respire, il n'y a pas de produits toxiques, chimiques, et en plus, vous pouvez les mettre sur votre compost.
Ça vous est venu comment, cette conscience écologique?
Déjà de mon éducation, de ma nationalité aussi, puisque plus on monte dans le nord de l'Europe et plus l'écologie est quelque chose d'intégré.
C'est vrai.
Je m'étais pas rendu compte
de ce côté géopolitique de l'écologie, mais c'est vrai que les pays du nord de l'Europe sont très
La Belgique, Danemark. La Suède, Danemark, etc. C'est plus courant, ouais. C'est plus normal.
Et alors donc ça veut dire que au quotidien vous ne vous servez pas de coton couches. Pour vous démaquiller.
Non.
Vous avez une petite lingette que vous relavez systématiquement pour
voilà.
C'est ça?
Oui.
D'accord.
Oui, j'essaye de réduire au maximum mes déchets et j'y arrive.
Zéro
très
déchet.
Bien. Quasiment, ouais.
Ouais. Le problème se pose aussi pour l'hygiène intime des femmes. Il y a des vraies questions qui se posent, notamment sur les tampons qui sont des.
Il y a le Moon Cup maintenant. Tous les jeunes, les filles utilisent ça maintenant. C'est super.
Mais il faut rappeler qu'il y a des produits qui sont pas.
Dans les tampons,
très
les serviettes hygiéniques,
bon pour la santé,
ils sont complètement bombardés de cochonneries.
Ça fait un insecticide, quoi.
Et c'est collé en direct avec la muqueuse. Donc c'est-à-dire c'est direct dans le corps. En fait, c'est on nous empoisonne depuis des années.
Oui.
Oui, c'est vrai.
Absolument.
Parlons maintenant de ce film que vous avez tourné. Il y a combien de temps d'ailleurs? Il résonne encore en vous ou c'est il y a tellement longtemps?
Il n'a pas fini de résonner, je pense. Parce que c'était une histoire tellement puissante que, donc, bien sûr. Bah, j'ai fini de quoi? De le tourner ou de le. Le film a été totalement fini.
Le bébé est sorti de la crèche quand?
Avril-mai.
D'accord. Donc c'est l'histoire de Corinne que nous recevrons tout à l'heure. Est-ce que c'est totalement l'histoire de Corinne ou pas? Vous allez nous dire, est-ce qu'il y a une partie fiction, romancée que vous avez rajoutée pour le cinéma? Mais en tout cas, c'est l'histoire d'une jeune femme qui perd son mari et qui est dans une sorte de dépression, Elle est clairement pas en forme. Elle est au bout du rouleau. Destin croisé avec sa sœur qui, elle, va donner la vie. Donc elle, d'un côté, la vie est partie. De l'autre côté, Ludivine Sagnier est enceinte. Enfin, le personnage Ludivine Sagnier est enceinte et elle attend un bébé. Donc il y a ce cycle comme ça de la vie face auquel elle est confrontée. Elle est heureuse pour sa sœur. Elle est malheureuse d'avoir perdu son homme. Et presque suite à une erreur technique d'ingé son dans un studio d'enregistrement où il y a un artiste qui sort la version dingue du single qui aurait pu être le tube, elle a pas enregistré et là elle voit qu'elle est totalement en burn-out et le technicien, le patron du studio, plutôt que d'être méchant, violent, en virant quelqu'un qui a fait une faute professionnelle, au contraire lui dit, il serait temps que tu penses à toi et que tu partes faire un documentaire puisque tu aimes les voyages.
Ça te ferait du bien.
Ça te ferait du bien.
Choisis la destination et.
Il avait besoin de son précis et il propose différentes destinations.
Mais au-delà du patron, ils sont très très proches, sont des amis qui sont très proches.
Non, mais après on se rend compte qu'ils sont proches. Au début, tu te dis, elle va se faire jeter quoi. Et ça va mal se passer. Et donc elle part sans savoir finalement ce qu'elle va vivre, Fabienne.
Bien sûr, elle part pour essayer d'aller mieux, pour dépasser cet état de deuil qui l'a fait plonger dans l'abîme de la dépression. Et elle se retrouve là-bas. Elle va à la frontière sibérienne, très très loin. Et elle rencontre cette tribu nomade qui s'appelle les Tsatan, les derniers éleveurs de rennes de Mongolie. Elle assiste à une cérémonie chamane et il lui arrive un truc absolument fou. Elle part complètement dans une inconscience, dans une espèce de transe, dans quelque chose qui est incapable à maîtriser.
Alors qu'elle n'était que spectatrice. La chamane n'était pas en train
de... Elle était venue prendre des sons.
Venue travailler pour faire un documentaire sonore, elle enregistre ses sons, et là, la voilà prise par le son du tambour.
Le tambour, dans l'oreille directement.
Par uniquement le son du tambour. Et en Mongolie, quand on rentre en transe par le son du tambour, on est désigné comme chaman.
Alors, comment on travaille un personnage comme celui-là? J'ai l'impression quand même que c'est la première fois dans votre filmographie que vous incarnez.
Que vous tremblez.
Après 2-3 soirées, elle a déjà dû trembler de la main. On en parlera avec Pierre Arditi demain, avec le vin. Non, mais pour en revenir sincèrement, comment on travaille un rôle comme ça? On rencontre Corinne, on sait qu'on va incarner un être vivant. C'est pas simplement un biopic, c'est un vrai parcours de vie et scientifique aussi. On en parlera aussi, ensuite dans l'histoire. Comment vous avez travaillé ce rôle?
Ben, Corinne nous a accompagnés en fait tout le long et en préparation aussi. Et elle a fabriqué une boucle de son qui dure 20 minutes, où elle a séquencé toutes les fréquences du tambour qui, elle, la faisait partir en transe, puisque maintenant...
On peut la laisser en petit tapis pendant que vous
parlez. Parce que maintenant, elle arrive depuis longtemps déjà, elle arrive à rentrer en transe même sans besoin...
Ok, on arrête le tambour, parce que je ne veux pas que Corinne soit influencée par le tambour.
Mais Cécile a les mains qui tremblent déjà.
Et non, ça a été passionnant, parce qu'elle nous a fait écouter même à Fabienne, aux productrices, elle le fait écouter à plein d'étudiants des Beaux-Arts en Belgique, etc. Donc cette boucle de son provoque donc cet état de conscience modifié, qu'on appelle la transe, chez 80% des gens.
Ah ouais, 80% des gens.
Oui, tout à fait.
Et ce sont les vibrations ou la musique elle-même qui
provoque ça. Vous savez, en Afrique, en Amérique du Sud, enfin dans beaucoup de continents, depuis la nuit des temps, la transe existe. Il n'y a que chez nous, en fait, où on a oublié d'utiliser cette capacité extrasensorielle qui nous servait il y a très très longtemps, même, je dirais, si on remonte au paléolithique.
Sur le tournage, vous-même, vous avez ressenti justement ces vibrations, ces...
Oui, tout à fait. Je, les scènes de transe, je suis vraiment en transe.
Ah bon?
Oui.
C'est impressionnant.
Ouais, bah autant vivre l'aventure jusqu'au bout.
Et là, il faut quoi? Il faut une espèce de lâcher prise? Il faut chercher à jouer? Il faut être...
Non, mais je pense que quand on est comédien, de toute façon, on est prêt à expérimenter ce genre de choses. Et puis le corps, qui est notre élément de travail principal, hein, puisque voilà, au cinéma et dans notre société, on coupe. On fait toujours la différence entre le corps et la tête. Or là, voilà, tout est lié. Ça, c'est la vision holistique, d'ailleurs, du chaman, qui est intéressante sur notre société, d'ailleurs. Mais donc, voilà, non, c'est une expérience physique extraordinaire, et surtout parce qu'elle était là. Corinne était là pour me ramener si jamais je partais trop loin et que j'arrivais pas à revenir.
Oui, parce que c'est ça aussi, j'allais dire, il y a une sorte de danger, il y a un risque, c'est de partir et de franchir cette fameuse porte vers l'au-delà, et avec le risque de ne pas retrouver le chemin retour.
Oui, oui, tout à fait. Et donc, lors de ces transes, la première transe que j'ai faite, c'était les essais. Le casting, c'était ça. Ouais. Plusieurs actrices ont écouté cette boucle sonore. Et voilà, moi, il se trouve que, je sais pas, j'ai dû réagir en fonction de ce que désirait Fabienne. Mais je suis arrivée à cette porte, effectivement. Et donc, j'ai découvert ce... Non, je n'ai pas osé. Mais vous êtes totalement conscient. Hein, c'est pas la différence de l'ayahuasca ou du chamanisme où on absorbe des substances qui vous rendent moins maître de vous. Là, vous êtes complètement maître de vous. Vous avez,
on se voit faire en fait. Oui, on tout peut à pas fait. S'empêcher de le faire. On s'autorise à faire.
Comme un état d'hypnose aussi. On est conscient en état d'hypnose.
Oui, le c'est spectateur. Plus intense quand même.
Plus intense. Hein, d'accord.
Oui. Physiquement, c'est plus fort.
Qu'est-ce qui vous empêchait de franchir la porte?
Bah justement, cette partie de... C'est pas...
D'accord, elle n'est pas la clé.
Non, c'était la peur
Non, le... Déjà, d'arriver à cette porte, c'était déjà quelque chose, une première expérience incroyable. Et puis, il y avait cette deuxième étape qui se proposait à moi. Et je pense que oui, je ne sais pas, j'ai pas osé y aller, oui.
Pourquoi vous ne voulez pas envoyer le mot peur? Si ça en était, il n'y a pas de mal.
Parce qu'il n'y a pas de mal. J'ai pas eu peur, vraiment.
Bah, j'ai pas osé.
Vous savez, Naki, quand il veut une réponse,
non, c'est pas ça.
Non,
parce que moi, très sincèrement, j'aurais peur. C'est-à-dire que dire la phrase, j'arrive dans un tunnel de lumière, il y a une porte, et cette porte-là.
Parce que c'est l'inconnu, bien sûr.
Et cette porte-là m'amène dans l'au-delà et vers les morts, et on a tous dans notre entourage des personnes qu'on aurait sûrement envie de revoir, de recroiser, ou d'embrasser, ou de serrer dans ses bras, et de dire, j'ai peur.
Mais parce que c'est pas ma dimension. Et que je pense que notamment les esprits des défunts sont dans leur dimension à eux. Et le film, il raconte ça. C'est aussi cette chamane qui explique à Corinne que elle doit rester dans sa dimension à elle. Elle doit planter ses pieds dans la terre. Elle doit être une guerrière et elle
pour
doit trouver.
Pour revenir, mais aller dans l'autre aussi.
Oui, bien
voyager
sûr.
Voyager dans les différents niveaux.
Voilà.
Parce que c'est ça, c'est que le monde, c'est une seule, c'est un. Mais avec différents niveaux de résonance.
Et elle doit laisser son défunt mari dans le monde des morts. Ça veut dire que même si une visite est éventuelle, mais en tout cas, par tous les travaux qu'on lui fait endurer, votre personnage, Cécile de France, c'est aussi lui dire, voilà, le rapport à la terre, il est primordial.
Oui, il faut laisser l'esprit du défunt dans une dimension qui est parallèle. Ouais. Mais comme les parallèles se rejoignent à l'infini, l'amour est plus fort que la mort. Parce que ce film est un film romanesque aussi. C'est pas qu'un film sur le chamanisme, c'est une grande et belle histoire d'amour.
Comment vous avez donc choisi Cécile de France au milieu d'autres actrices? Elles étaient nombreuses d'ailleurs?
Je cherchais celle qui devait interpréter le rôle. Et
j'ai compris le principe du casting, merci.
Quand j'ai écrit le scénario, normalement j'ai toujours... C'est nouveau pour moi de prendre l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai mes trois films, je les ai faits avec Diane Kruger. Là, c'est la première fois que je prends l'histoire de quelqu'un d'autre, que je me l'approprie, que je la digère, que j'essaie de tout comprendre. Et donc
avez-vous fait passer des essais aussi à Diane?
Ah non, mais Diane, elle n'était pas pour ce film-là.
Alors, il fallait quelle comédienne, quelle actrice
Cécile.
Non. Il n'y a pas Cécile. On est au début du projet. Vous dites, il faut une comédienne qui...
Mais moi, je raisonne pas. On dit, je veux Cécile. Je dis, je rencontre et je dis, c'est elle. Je n'analyse pas, je n'intellectualise pas.
Rends un petit coup de tambour, peut-être que ça
va. Non, mais... Je vais te calmer, Fabienne, tu vas voir. Déjà, tu me parles comme ça, déjà. C'est le tambour, c'est pas moi.
C'est l'esprit.
Elle fonctionne à l'instinct, Fabienne.
Je suis organique et donc je ne sais pas pourquoi.
Je suis totalement d'accord. Sauf que vous n'avez pas demandé à 250 000 actrices de venir à un rendez-vous.
Non, j'ai fait passer les essais. Trois actrices.
Voilà, donc donc ces trois actrices répondaient forcément pour vous soit à des critères d'âge, de physique, de taille, de couleur de cheveux, que sais-je, ou de ce qu'elles dégageaient humainement et que vous recherchiez. Ce sont ces valeurs humaines que je cherche.
Alors je cherchais une actrice Vous savez, c'est très compliqué parce que je ne me base pas sur la couleur des cheveux.
Non, mais quel est le point commun,
l'énergie qu'elles peuvent m'apporter. Voilà. Est-ce que je peux ressentir, et si je les aime, et si je peux les filmer, si je peux les rendre les plus belles au monde, et si elles vont me donner tout ce qu'elles ont à me donner sans restriction.
Mais ça pourrait marcher avec beaucoup d'actrices que vous venez de dire.
Oui. Mais pourquoi en fait, trois seulement? Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi Cécile. Parce que Cécile, c'est quelqu'un qui a un côté très animal et qui est très connecté. Donc, je pouvais l'emmener loin parce que je savais qu'elle avait cette stabilité-là. Et en plus, c'est une histoire, cette histoire est une histoire personnelle d'une femme ordinaire. Je ne dis pas que Cécile est ordinaire, mais à laquelle...
Bah, vous venez de le dire.
C'est pas une insulte.
Non, toutes les femmes peuvent s'identifier. Et elle a cette chose-là, Cécile. C'est pas une actrice qui est posée sur un piédestal assez inatteignable. Elle est proche des gens.
Elle peut l'être. Elle peut être inatteignable, mais elle peut être aussi...
Elle peut être extra, elle peut être ordinaire. Donc elle est... extraordinaire, on est d'accord. Ouais. Cécile de France est à l'affiche de ce film. Il y a également Narantsa Tsek Dash, Tserendarizav Tashnimian, Arie Voltalter. Oui, mais je voulais pas me décourager parce que ce sont des acteurs et des actrices et qu'il faut aussi respecter leur travail. Et j'ai gardé du Divine Sani pour être sûr de ne pas écorcher.
Je l'ai dit, Arie Voltalter.
Tout ce beau monde réuni donc devant la caméra de Fabienne Berthaud, Un monde plus grand, ça sortira le 30 octobre prochain. Voici venir François.
Salut les amis. Salut Nagui. Coucou Cécile. Coucou Fabienne. Comme tu le sais Nagui, oui. Je suis fou d'étymologie. L'origine des mots, la sémantique, c'est mon kiff. Le mot chaman vient de saman, un mot de la langue tungose, parlé notamment en Yakoutie et en Mongolie, mot formé à partir de la racine sam, qui signifie s'agiter en remuant les membres postérieurs. J'en déduis donc qu'à ma façon, quand je livre mon corps au feu de la dance sur le dance floor du Banana, entouré de la communauté des clubbers, go-go boys et pole dancers,
oula,
moi aussi... Je l'ai pas voulu. Je suis chaman. Entrant alors en communication avec l'esprit des François, visibles ou invisibles, disparus ou presque, je vous refais pas la liste, hein. Claude François, Frédéric François, François Valéry, Jean-Pierre François, François Hardy, etc.
Mais ils sont là,
toujours avec moi. Hélas, malheureusement,
quoi,
mes pouvoirs magiques s'arrêtent là. Sinon, j'aurais rendu tout à fait magnifique.
Tu as du mal à te relire ou quoi?
Non, je suis possédé. Ah, oui. Je les aurais rendus moins laids, tous les membres de la bande originale. Bref, Fabienne et Cécile, j'ai kiffé un monde plus grand. Pas seulement, comme l'a fait remarquer Leïla, je la cite. Enfin, un film qui vante les bienfaits combinés de la vodka et de la clope. Mais... Il faut ça pour les calmer, les esprits. Parce qu'en outre, la prestation formidable de Cécile de France, qui est magnifique, et les grandes qualités cinématographiques de la réalisation. Ce film nous interroge sur les représentations du corps, du psychisme, de la maladie que nous nous faisons dans nos sociétés occidentales, rationalistes, mécanistes et peu inclines à certaines approches considérées comme archaïques, alors qu'elles s'inscrivent dans l'harmonie d'une vision cosmique. Waouh, ça c'est du commentaire subtil. Une fois de plus, j'ai fait très fort. Autre chose que les escrocs bavards du masque et la plume. Don Nagui me disait d'ailleurs ce matin, franchement, si j'avais les pouvoirs de l'homme-chat, The Shaman, tu sais où je leur collerais la plume à Jérôme Boursin et toute sa bande. Je peux te dire qu'on les entendrait moins couiner. Eh oui, la connaissance approximative des collègues et l'ultra-violence, c'est aussi ça, la trans-inter. Bonne émission.
Merci François.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Le film sort le 30 octobre et autour du film, j'ai parlé évidemment du livre de Corinne Sombrin que nous allons accueillir dans quelques instants, Mon initiation chez les chamans, chez Pocket. Il y a également une exposition de photos autour du film, c'est à partir du 19 octobre, Halle au Sucre, au Centre d'Art Contemporain de Dunkerque,
oui,
qu'a lieu cette exposition. Et la Biennale de Venise, Endodrome, alors expliquez-nous ce qui se passe.
Alors, moi, c'est juste...
C'est une expérience en réalité virtuelle, c'est ça?
Ah, ça, c'est oui. C'est Corinne Sambrin qui a travaillé avec Dominique González
Fouester.
Voilà. dans le cadre de la Biennale, justement, mais elle pourrait mieux vous en parler que moi, parce que j'ai pas eu l'occasion de voir.
Alors, ça combine une expérience de réalité virtuelle interactive avec un cadre théâtral qui suggère l'expérience d'une transe, avec cinq personnes à la fois, et ça peut accueillir cinq personnes à la fois.
Voilà.
On va voir dans quel contexte on peut le voir.
A travaillé justement sur le son et a amené son travail sonore. Elles se sont additionnées toutes les deux.
À propos de son, j'ai oublié la guimbarde.
La guimbarde.
Qui fait mal aux dents.
Ouais.
Je sais pas si vous avez essayé.
Il faut savoir s'en servir.
Ouais, la première fois qu'on s'en sert, ça fait mal aux dents.
Mmh. Bah on le voit un peu dans le film, que c'est pas simple.
Non, c'est pas simple.
Ça fait un peu vibrer toute la mâchoire.
Et lui aussi, il fait vibrer sa mâchoire. C'est Jérémy Corbière.
C'est quoi sa mâchoire? Ils sont superbes au lancement, vraiment. On sent que vous faites de la radio depuis 2-3 ans.
Mais moi, mon rêve, c'était d'être lancé comme un boomerang. C'était un cintre. Oui. Non, tu sais, d'être lancé comme un boomerang. Comme un boomerang, façon Augustin Trapenard. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est ainsi que Pascal a couché l'amour dans ses pensées. Mais il pensait quoi, Pascal, à ce moment-là? Il pensait à qui? C'est quoi l'amour? Et dans qui? Parce qu'il est protéiforme, l'amour. Il est masculin au singulier, féminin au pluriel. Il peut être poli tout en étant trash. Il peut durer toute une vie ou juste une nuit. À la télévision, il a ses feux, ses vacances, sa gloire et sa beauté. Il est au coin de la rue ou dans le pré. Mais dans la vraie vie, au bout de 8 ans, on le retrouve comment, l'amour? Vous voyez?
Ça.
Un matin, s'il a l'amour, tu peux y aller, quoi.
Ça donne envie.
Ouais. Exactement.
Moi, je trouve ça mieux que l'original.
Ça fait plaisir. Ouais. Bon, d'ailleurs, en parlant d'amour, bonne nouvelle, ma femme écoute l'émission. Mauvaise nouvelle, elle prend tout au premier degré, sauf Morin, quand il s'excuse, ça, elle y croit pas.
D'accord.
Or, hier, dans cette émission, Guillermo Guise, le mec qui met en scène des chroniqueuses et qui prend leur place dès qu'elles ont des nausées. D'ailleurs.
Ça va pas, non?
Ça va pas.
Bah quoi, on l'embrasse. Si, d'ailleurs, ce matin, je l'ai vu tenter de s'accoupler avec Pasturo pour gratter d'autres chroniques. Bref. Ernesto, ce fruit de l'inceste, a parlé rupture.
Fais gaffe, il est belge, ça peut vexer Cécile de France, que tu vas dire.
Ça reste un fruit de l'inceste. Toujours, toujours est-il qu'il a parlé rupture et du coup, ma femme veut se barrer. Voilà. Elle veut me faire le coup des clopes. Vous savez, cette histoire, une personne qui part acheter des clopes et qu'on ne revoit jamais. Sauf que là, le prix des clopes, il a augmenté et on a toujours un compte commun. Vous voyez? En plus, elle fume pas. Mais en même temps, qu'est-ce que je lui offre, moi, à ma femme depuis 8 ans?
Je t'ai offert un monde.
Oui, j'adore.
Fait d'absence et de rancœur. Dis-moi, ma belle, as-tu bien reçu mon bouquet de fleurs? Pardon. Tu as ouvert les yeux. T'as remarqué que j'étais une merde et que ces strass, ces paillettes ne faisaient plus briller tes yeux.
Voilà, bon, je crois que
j'allais
plomber l'ambiance. Et plomber l'ambiance,
enfin, la suite. La suite.
Je sais que t'aimes ça, Leïla. Je sais que j'ai failli plomber l'ambiance, mais en fait, c'est des trucs qui arrivent dans un couple. C'est comme une shot piece en Thaïlande ou Ebola en Afrique. C'est peut-être pas les bons exemples pour remettre dans l'ambiance. L'amour, c'est un hamster. Tu vois, il court aussi vite qu'il le peut dans la roue de la routine, mais il fait du surplace. Alors, parfois, il veut arrêter la routine, donc il s'arrête d'un coup, sauf que la roue de la routine, ça l'emporte, et il est pris dans la force centrifuge du couple. Puis, au bout de 3 ans, il meurt.
C'est plein d'espoir.
Ça fait plus de 8 ans que je suis en couple, hein, voyez. Garder la flamme pendant 8 ans, c'est dur. Même Lubrizol, on n'est pas capable. C'est compliqué.
Huit ans
avec une orthophoniste pour toujours bafouiller à l'antenne.
Pour un mec qui articule comme ça, ouais, c'est choquant.
Non, mais comment tu veux séduire avec quelqu'un avec qui tu vis depuis 3019 jours? Alors qu'en 3 minutes de chronique, j'arrive déjà à faire partir des auditeurs. 3019 jours.
Ah,
ça fait 72 456 heures en ma compagnie. Rendez-vous compte. Vous avez vu 127 heures?
Ouais.
Vous savez, le mec qui se coince un bras dans un rocher, puis qui se coupe un membre pour survivre. Ouais. Eh ben, 8 ans, ça fait 550 fois ça. C'est beaucoup, hein.
Ça fait beaucoup de membres, surtout.
Ouais, surtout. 8 ans, on est ensemble depuis 2011. Notre histoire d'amour a commencé pile quand celle des deux Ligonnès s'est arrêtée. Voilà. Que 2011, c'était l'année de l'appel. Voilà, niveau ambiance, on est là. Pour rappel, 2011, c'est la mort d'Oussama Ben Laden, la mort de Muammar Kadhafi, la mort de Kim Jong-il. Hein, j'ai quand même pas de bol. Un seul despote qui survit, il est pour ma gueule. On dit que l'amour rend aveugle, au début peut-être, après il rend surtout sourd-muet, parce que nous ça fait un bout de temps qu'on se parle plus, qu'on s'écoute plus. Notre couple, on dirait un pax entre Bernardo et Beethoven. En plus, j'ai pas compris tout de suite, moi, qu'elle voulait qu'on se sépare. Hier soir, on était au lit, avec celui avec qui on partage notre vie depuis des années,
son amant.
Netflix.
Ah bon?
Et là, elle m'épose, elle me dit, Jérémy, j'ai besoin de respirer. D'abord, t'as le nez bouché? Non. Tu comprends pas, je me sens à l'étroit. Ah, putain, j'ai remarqué aussi. Tu devrais peut-être mettre du 40 plutôt que du 38. Et je comprends vraiment pas pourquoi elle veut se barrer.
Pour la classe que tu as.
Le thème.
Sur France Inter.
C'est tiré d'une histoire vraie?
Eh non, vous prenez tout premier degré.
Ouais, on est très premier degré. Présente également dans la musique de votre film, il y a les tambours, la cérémonie chamane, la guimbarde aussi.
Et l'ocarina.
Ah non. Mais cette musique qui revient, qui est aussi l'histoire d'amour.
Ah, c'est son amour. C'est, ça illustre, c'est Paul, c'est l'homme qu'elle recherche.
Et elle est prête
qui
à...
était violoncelliste.
Et elle est prête à tout.
Eh bien, c'est même, l'amour, même, elle même est à, prête à tout.
Même
et
à se juste, risquer. Ouais.
Absolument, mais c'est ça que j'ai aimé dans le sujet, c'est que c'est une grande histoire d'amour et c'est surtout jusqu'où on est capable d'aller par amour. On peut aller, mais au bout du monde pour ça. On peut tout abandonner pour ça.
Un monde plus grand, le 30 octobre, au cinéma. Dans les musiques que vous écoutiez dans les années 80, ces îles de France, il y avait... Quelle mouche. Vous avez comme image en réécoutant Babouchka ?
Mais je faisais la chorégraphie quand elle tourne autour du violoncelle et tout. Et
encore c'est... le violoncelle,
ouais. Tiens. Ouais, ah bah oui d'ailleurs.
Il est là.
Non, j'ai beaucoup de respect pour elle parce qu'elle a inspiré énormément de chanteuses. Vous saviez que c'est elle qui a inventé le petit micro qu'on met près de la bouche que comme elle faisait chorée et tout avec ses danseurs, elle avait besoin
d'un petit micro. Ouais.
Et après, Madonna et toutes les autres l'ont copié.
Dans ces années 80, ouais, on vous retrouve enfant, Cécile de France, et on aime bien revenir dans cette émission sur ce qui a suscité la vocation en vous. C'était à l'école, vraisemblablement, que je crois que c'était une poésie, ça a été un moment un peu déclencheur.
Oui, voilà, c'est quand je récitais mes poésies en classe, alors que j'étais une enfant assez timide et réservée, tout d'un coup, je voyais mes copains s'émouvoir, rigoler, je voyais leurs yeux s'ouvrir en grand. Et ça me procurait un plaisir immense. Et donc, je m'étais dit, toute ma vie, je vais faire ça. C'est formidable.
Au point de quoi de pratiquer déjà, de demander à être inscrite dans un cours de théâtre ou de faire des choses à la maison. C'était quoi
Oui, je faisais du théâtre amateur. Ouais. Et notamment ce fameux spectacle qui s'appelait « Mille ans dans les arbres », qui était un spectacle en plein air. Donc après, j'ai coupé mes cheveux tellement ça a été intense. Bon, quoi. Ouais. C'était très fort.
Et vos parents vous suivaient là-dessus?
Oui, ils m'ont toujours encouragée. Ils m'ont toujours laissé croire que j'allais en faire mon métier. Et en vivre, ouais.
Sans jamais s'inquiéter.
Parce qu'il y a une
forme de précarité, l'intermittence, on ne sait pas ce que ça peut donner.
Oui, tout à fait. Mes grands-parents m'avaient mis en garde et m'avaient dit « Alors attention, tu vas vivre sur la paille, tu vas être pauvre. » Et j'y réfléchis, du coup, je me suis dit « Bon, alors j'ai le choix et j'ai décidé d'écouter mon cœur. »
Ils n'ont pas tort. La majorité des actrices ou des acteurs n'ont pas la chance d'avoir le talent d'avoir votre carrière. Donc.
Et quand vous avez craché du feu, ça les a tout de suite rassurés.
Dormir sur la paille, oui.
Fabienne Berthaud, vous écoutiez dans ces années 80. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Et là, vous, cette musique vous renvoie à vos années d'actrice?
Ouais. Annie Lennox, j'adorais cette femme, je la trouvais en plus magnifique.
Absolument.
Et puis je sais pas, à l'époque, elle avait cet aspect androgyne, un peu en avance finalement sur tout ce qu'on est de toute notre société et tout ça. Et j'aimais beaucoup cette artiste.
Et on vous retrouve à l'affiche de courts-métrages, mais aussi à la télévision, avec beaucoup de collaborations dans ces années 80.
Oui, c'était pas assez bizarre parce qu'être actrice, ça m'allait pas du tout, je pense. Ouais. J'étais malheureuse. En même temps, c'était étrange parce que je voulais être actrice ou mourir. Il n'y avait pas d'autre chose.
C'est sobre comme ça.
Oui, c'était très sobre. C'est pour ça que mes parents me laissaient.
Vivre
ce que j'avais envie
vous
de faire,
vivre.
Que je reste vivante.
Mort,
ouais. Mais
c'est pas mal quand
même. Mais en même temps, il y avait quand même Stanislavski, l'acteur studio. Ouais.
Qui vous a donné envie d'être actrice? Est-ce que c'est
personne,
une actrice ou...
C'est moi toute seule, je ne sais pas.
Non, mais il n'y a pas un film, une pièce, un...
Rien, je voulais être actrice. C'était le seul moyen pour moi de trouver la vie intéressante. C'était fou. À 10 ans, 14 ans, et pourtant j'ai pas de famille dans ce métier, rien du tout. Je ne sais pas, c'était que ça. Que ça.
92, 94, Cécile de France, vous écoutiez. Plus froide.
Oui, plus
Joy Division.
C'était pas facile pour
toute
moi.
La bande
parce que...
New Order et tous ces
ouais,
groupes
voilà,
très synthétiques.
Et... Ouais. Non, c'était une période difficile parce que j'avais quitté, je venais d'avoir 18 ans, j'ai quitté la Belgique, mes racines, ma culture, ma famille, mes amis. Et je suis tombée dans le 16e arrondissement de Paris. C'était totalement.
Totalement seule.
Et très seule, oui, voilà. Et donc je lisais Boringer, C'est beau une ville la nuit, je dévorais les poèmes de Jim Morrison, j'étais un peu dans cette atmosphère un peu dark comme ça, et j'écrivais des poèmes sur la saleté parisienne, les clodos, les rats, enfin il y avait quelque chose de très sombre, mais je pense que c'était parce que j'étais j'avais décidé de tout faire pour vivre ma passion, mais ça m'a coûté aussi affectivement et c'était pas facile, ouais, de quitter mon chez-moi.
Et même les conditions de vie étaient pas simples, en fait. Parce que c'est quoi? C'est une chambre de bonne dans le 16e, avec éventuellement la douche ou pas de douche.
Oui, pas de douche, même. Ouais,
voilà, ouais. Comme dans le film, alors, décidément.
Ouais. Et je me lavais à l'école, ça allait.
Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais j'imagine que tout d'un coup, on quitte l'environnement familial, voilà. Éventuellement des plats, des bons plats, des choses.
Exactement.
La nourriture réconfortante, quoi.
Le confort.
Synonyme de l'amour, ouais, quoi. Et là, on passe aux boîtes de conserve et aux trucs.
Exactement.
Mais on reste quand même.
Bah oui, parce que j'avais un tigre dans le ventre.
Le côté animal dont parlait Fabienne tout à l'heure, le tigre.
Ouais. Non, mais je savais, comme Fabienne, qu'il fallait que je fasse ce métier. Alors, je pensais pas forcément faire du cinéma, mais en tout cas, le théâtre, oui, j'aurais pas pu vivre sans cet art.
Fabienne Berthaud, vous écoutiez.
Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend. La nature humaine, c'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix.
Alors vous avez choisi Stéphane Escher, Déjeuner en paix, c'est pour Gian ou pour Stéphane Escher?
Stéphane Escher.
D'accord. Non, je parle de Jean parce que ces années-là correspondent à
la publication de votre premier roman.
Et voilà.
Un cafard.
Ah bien sûr, pardon. Bien sûr, tout à fait.
Mais oui, mais oui.
J'essayais
publication de mon premier roman et naissance de ma fille. En même temps.
Et là, c'est quoi? Wow. Vous dites, oui, je me lance dans une autre vie.
Ouais.
Parce que c'est doublement
non,
une autre vie.
Je me dis pas
quoi.
Ça, je me dis, je continue, mais je change d'outil.
Ouais.
Donc en fait, je prends un stylo, je prends un appareil photo, je me mets à travailler différemment parce que sans doute pas assez. Être actrice ne me convient pas parce que je suis un peu frustrée de ne pas avoir des grands rôles qui me permettent d'exprimer tout ce que j'ai envie d'exprimer. Donc je me prends par la main, je fais tout toute seule.
Bah justement, une auteure également, Corinne Sombrin, nous a rejoint chez Pocket. Elle publie donc Mon initiation chez les chamans, qui est le point de départ de ce film, Un monde plus grand. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Merci et bienvenue à ce micro. Vous êtes auteure ethnomusicienne, spécialiste du chamanisme mongol, formée vous-même par ces chamans de Mongolie que l'on retrouve dans le film. Déjà, ma première question, c'est de savoir, ça fait quoi de voir sa vie au cinéma?
Arc. Bah c'est bizarre. Il y a pire quand même. Hein, ça
oui.
Va. Surtout par Cécile de France. Voilà. Et les images de Fabienne Berthaud, c'est merveilleux. Ouais, ouais. Moi, j'avais la trouille au départ.
Parce c'est bizarre,
que,
non?
Mais j'avais la trouille au départ quand l'éditeur vous appelle et dit voilà, ils veulent faire un film avec ce livre-là. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce que quand c'est un roman, c'est une chose, mais quand c'est sa vie, surtout le travail qu'on fait de recherche sur la transe, c'est un sujet qui est encore un peu glissant. Et donc j'avais la trouille, voilà. Et puis j'ai rencontré. Et ben non, parce que quand on a vendu les droits d'un livre,
oui, mais
tout ce qu'on peut faire.
Vous pouvez refuser de le vendre.
Ben non, mais je l'avais vendu déjà le livre, il était édité.
Non, mais que le livre soit édité.
Ah, on ne peut pas refuser l'adaptation.
Vous n'avez pas le droit de refuser que ce soit adapté.
Il y a une clause.
Voilà. C'est-à-dire que quand on a vendu les droits à l'éditeur, la seule chose qu'on puisse faire, c'est dire je ne veux pas que mon nom soit associé à ce film.
D'accord.
Voilà.
Je ne savais pas que vous avez terminé.
Voilà.
Donc, vous voyez votre vie à l'écran. Comment vous avez réagi lorsque vous avez découvert en 2001, c'est ça, que vous étiez chamane?
Ben, moi, je m'en foutais pas mal d'être chamane. J'étais là pour faire un deuil et puis on me dit que je suis chamane, ce qu'on voit dans le film. Je veux dire, c'est flippant, franchement. Et puis, la réaction que j'ai avec le tambour, qui me transforme, c'est-à-dire que je me vois en train de me transformer et je peux pas m'en empêcher. Et en même temps, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de hurler comme un loup, j'ai besoin de faire ces gestes. J'ai sauté sur le chaman pour lui prendre son tambour, il me fallait ce tambour. Enfin, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout de ma personnalité. Voilà.
Pardon, il fallait le tambour parce que vous vouliez l'arrêter ou au contraire, vous vouliez maintenir?
Non, je voulais battre le tambour, je voulais m'en servir, il me fallait ce son, c'était un besoin, c'était incroyable. Donc.
Vous parlez du son, pas des vibrations?
Ben, je sais pas, peut-être aussi les vibrations, mais
non, c'est juste
important.
Pour comprendre. Oui,
Bon, pour ça. On en parle après.
Nagui a été batteur.
Bah non, on va en parler maintenant.
Il était tambour.
Non seulement vous êtes chaman, mais un peu dictateur.
Mais je m'en fous d'être chaman.
Juste, j'aimerais comprendre.
Et il connaît le dossier des dictateurs, je peux vous dire.
Ne sachant pas ce que l'on ressent, tout à l'heure on parlait, parce que je trouve que les deux, Guimbarde et tambour, ça reste de la vibration et une résonance. Donc je voulais comprendre d'où vient la sensation qui envahit quelqu'un qui découvre par la musique ce chamanisme.
Si on le savait. Voilà. Donc c'est les recherches qu'on a menées après avec des chercheurs. Donc c'est les boucles de son dont on parlait. Je prends une douche dans mon gobelet d'eau.
Ouais.
J'ai trempé les doigts. Donc c'est ce dont elles ont parlé. C'est-à-dire c'est qu'après, avec les chercheurs, on a essayé de comprendre pourquoi ce son-là pouvait faire ça à quelqu'un, voilà, et sur un cerveau. Mais en Mongolie, il faut dire que ça fait cet effet sur 1 sur 100 000 à peu près. Hein. Donc nous, on a voulu voir s'il n'y avait pas possibilité de faire mieux en améliorant les sons et en essayant de chercher qu'est-ce qui faisait ça justement sur le cerveau. C'était la vibration, c'était le rythme, c'était la spatialisation, c'est voilà.
Pourquoi parler de vibration?
C'est bizarre. Hein.
Quel pouvoir avez-vous?
Ah ben j'ai tous les pouvoirs. Vous l'avez compris tout de suite, non?
Non.
Non. Ah merde, j'ai pas compris alors. Donc quel pouvoir? En fait, la transe va vous donner la capacité, des capacités, c'est une amplification cognitive, et elle va vous permettre d'avoir plus de force, de moins ressentir la douleur, et d'avoir accès à des informations auxquelles on a peu accès dans un état de conscience ordinaire.
De
voilà, ça c'est déjà ça.
Ça veut dire quoi? Quel genre d'informations?
Des souvenirs?
Des informations, non, d'ordre pratique. Si les chamans utilisaient ça il y a 8000 ans, c'était essentiellement à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Et c'était essentiellement pour savoir, par exemple, où se trouvait le gibier.
Oui, d'accord.
Et vous savez où est Dupont de Ligonnès ou pas? Dupont de Ligonnès, vous savez où est?
Voilà, c'est ça. Donc c'est utilisé plutôt comme un GPS. Non, je ne répondrai pas à cette question.
Non, mais ça c'est... Dites-nous les questions
non,
que vous
voulez. Non, mais c'est retrouvé... C'est retrouver tout ce qu'on a perdu, c'est l'intuition, toutes ces valeurs.
Oui, la connexion, surtout la connexion à son environnement. Toutes les règles des chamanismes, quel que soit le lieu où ils s'appliquent, quelles que soient les populations. D'abord, on ne l'appelle pas chamanisme, on est bien d'accord dans chaque population. Mais toutes les règles sont comment vivre en harmonie et en respect avec son environnement. Voilà, c'est ça la base. Donc pour eux, la transe est un moyen d'avoir des informations qui vont nous aider à faire en sorte que la communauté soit harmonieuse.
Dans le film, le personnage de Cécile de France, qui vous incarne, détecte un sifflement
que les autres n'entendent pas.
Voilà, qui émane de cet homme qui travaille avec elle. Ça aussi, ça veut dire qu'on peut détecter qu'il y a une maladie, il y a quelque chose. Est-ce que ça
c'est une alarme.
C'est passé, ouais. Ça s'est vraiment passé.
On peut détecter des dissonances, c'est ça. Donc, ouais. Ils peuvent se manifester sous forme de son, qui peuvent se manifester sous forme d'image.
Ouais.
Et donc, ça peut arriver. Mais c'est la pratique de la transe qui va développer ces capacités, qui sont des potentiels en chacun de nous.
Ça vous est arrivé, ça?
Oui, ça m'est arrivé, mais moi, je ne l'ai pas dit à mon copain. J'ai pas osé.
Ouais.
Voilà, le doute imposé par ma culture.
Oui.
Donc vous le voyez dans le film à quel point c'est une résistance par rapport à tout ça. Et j'ai pas osé le dire. Voilà. Donc dans le film, c'était aussi une façon de
rectifier après coup.
C'est la seule part de fiction qu'il y ait dans le film?
Non, il y en a plein. Il y en a d'autres.
Il faut bien retrouver sa liberté. Je vais pas, c'est pas un documentaire sur Corinne Sembrun. Voilà. C'est un film de grande histoire romanesque et un film d'amour. Faut pas, attention. Voilà. Sa sœur, t'as pas de sœur.
Non, mais lisez le livre.
Tout ça.
Si vous voulez. Et
je vais prendre du temps.
Non,
ce que
je veux dire, c'est
que
c'est un film qui embarque à travers l'histoire de Corinne Sembrun.
Non, j'ai aimé le film. J'ai vraiment aimé le film. Ouais. Qu'est-ce que l'on ressent physiquement quand on est en transe, Cécile de France?
C'est difficile d'expliquer. C'est comme les expériences au seuil de la mort. Les gens qui ont vécu ça, on ne trouve pas les mots pour expliquer. Hein,
les NDE, souvent, sont expliqués, enfin, pour les personnes qui ont des expériences de near-death experience, quand ils parlent de cette lumière, ils parlent du tunnel, ils parlent justement de la perception qu'ils peuvent avoir d'entendre ce qui se passe autour d'eux, tout en ayant le sentiment de partir. Est-ce que ça, ce fameux tunnel, on parlait de porte tout à l'heure, que vous n'aviez pas voulu franchir, on est dans un état cotonneux, on tremble.
Chacun le vit différemment. Il y en a beaucoup qui sont connectés à des esprits d'animaux, n'importe quel animal d'ailleurs. Ça peut être, moi c'était cette espèce de monde noir qui est montré d'ailleurs dans le film, avec lequel j'étais connectée. C'est très varié. Hein. Il n'y a pas une formule, il n'y a pas une explication unique. Chacun va le vivre à sa manière.
Justement, les images mises par Fabienne Berthaud au moment du début du voyage en transe sont des images que vous vous êtes parlé toutes les deux, c'est-à-dire ce côté très noir et blanc, c'est les forêts, les branches, les animaux.
Oui, parce que la transe induite par le son de tambour va provoquer moins d'images psychédéliques, on va dire, qu'avec des substances. Voilà, donc les visions sont assez sobres, il n'y a pas trop de couleurs, il peut y en avoir, mais il n'y a pas trop de couleurs, donc ce qu'a fait Fabienne, c'est très juste.
Alors vous avez parlé tout à l'heure de votre éducation occidentale et de peut-être une espèce de garde-fou que cette éducation apporte. Vous voulez justement franchir cette limite en apportant à la science l'expérience du chamanisme, ce qui est peut-être la première fois que quelqu'un le fait, en posant, je sais pas, des électrodes, en ayant des analyses, en disant à des médecins, il y a des neurologues, intéressez-vous à cet état-là, parce que c'est quelque chose qui doit être compris.
Oui, bah moi, après la surprise que ça a provoqué la première fois, et je me suis dit, mais comment ma société, ma culture à moi, qui soi-disant est savante, ne m'a pas prévenu que le son d'un tambour pouvait me faire ça? Voilà, parce qu'à l'époque, on est en 2001, et les anthropologues pensaient encore que la transe était une ritualisation, c'était juste une théâtralisation, c'était pas un effet cognitif. Donc moi, je voyais bien que ça me transformait. Donc j'ai voulu, une fois que j'ai compris ce que ça faisait sur moi, l'intérêt d'avoir plus de force, de la douleur diminuée, l'accès à des informations, je me suis dit, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, je suis allée rencontrer des scientifiques, avec les réactions que vous voyez dans le film, c'est-à-dire qu'en Mongolie, on me dit que je suis chamane, et en Occident, on me dit que je suis bonne pour la psychiatrie. Mmh. Voilà. Donc
et que quelques pilules peuvent faire anti...
Oui, bien sûr, que j'ai qu'à prendre des médicaments et que tout ira bien. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on voit dans le film. Et donc, j'ai envie de démontrer que non, que c'est pas ça. Et qu'il faut s'intéresser à cet état parce qu'il va y avoir des applications peut-être thérapeutiques que je connais pas encore, ouais. Mais c'est ce qu'on est en train de découvrir.
Là, on en est où de ces recherches, justement?
Et ben justement.
Est-ce que là, vous avez trouvé des chercheurs qui vous croient et qui vous écoutent?
Oui, donc Stephen Lawrence, qui joue dans le film, qui joue son rôle, donc qui est un des grands spécialistes de l'étude des états modifiés de conscience dans le monde. Et donc avec lui, on a commencé des protocoles de recherche pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pendant un état de transe. Et comme maintenant on est capable de provoquer des transes grâce aux outils qu'on a développés chez 80-90% des gens, on a fait des tests avec des volontaires, sur quasiment 600 volontaires, et on leur a aussi appris non seulement que c'était un potentiel qu'on a tous en nous, mais aussi qu'on peut l'induire par la volonté très facilement. Et donc grâce à ça, on a pu mettre en place des cohortes de transeurs, on les appelle des transeurs maintenant, des cohortes de transeurs qui ont été étudiées au CHU de Liège avec Stephen Lawrence. Voilà, donc tout ça va faire l'objet de publications et nous rassurer. Après, une fois que ces publications seront faites, on va commencer la phase étude clinique pour voir comment utiliser ça.
Est-ce qu'ils savent ce qu'ils cherchent ou simplement ils cherchent à comprendre et après ils verront ce que ça apporte?
Alors pour l'instant, il était question de démontrer que cet état est le résultat d'une modification du fonctionnement cérébral. Voilà. Après, la deuxième étape, c'est de comparer cet état qu'on appelle transcognitive maintenant, pour le séparer de la tradition chamanique, dans la mesure oui. où on n'a pas de rituel, pas de costume, et que c'est un potentiel de l'humain. Donc que la transcognitive, quelles sont ces similitudes et ces différences avec l'hypnose, avec la méditation, avec les états de rêve, avec les expériences de mort imminente, parce que c'est beaucoup étudié aussi au CHU de Liège. Voilà, donc ça c'est de faire une espèce de cartographie et de placer cet état qui maintenant est désormais dans le milieu scientifique et dans ses recherches. C'est accepté, ça y est.
C'est le pourcentage. Voilà.
Donc
pourcentage
la première chose, c'était ça. Et après, ce sera de faire des publications là-dessus. Donc il y en a une qui a été publiée déjà en 2017, qu'on a faite à Edmonton, au Canada. Et la suite, ce sera de commencer les études cliniques.
Et puis il y a cette androdome dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une expérience. Ça, c'est pour... Que les gens sachent s'ils sont capables ou pas d'avoir ces expériences transcognitives, ou c'est simplement...
C'est l'installation artistique, là.
Voilà. Oui, c'est une installation avec Dominique Gonzalez-Forster, qui a été formé à la transe aussi, qui connaît cet état et qui m'a dit, c'est tellement génial, j'aimerais qu'on fasse peut-être une simulation en réalité virtuelle à partir de ça. Donc il est hors de question de provoquer une transe dans une installation, bien sûr, parce que...
C'est dangereux.
Ça peut provoquer des remontées émotionnelles, et puis on ne sait pas sur qui on tombe. si on a un cerveau sain, mais si il y a des petits voilà, des problèmes de dépression, des choses comme ça, si il y a un psychotique, il va pas revenir de la transe. Donc il faut vraiment que quelqu'un de très très expérimenté puisse accompagner ces expériences.
Ça peut permettre à ceux qui se mettent dans cet état de soigner les autres ou de se soigner soi-même.
Alors on pense que il y a un développement des capacités d'auto-guérison, c'est-à-dire qu'on a fait quelques tests encore qui nous montrent que, par exemple, dans des processus de rééducation, sur un des chercheurs avec qui on travaille, qui avait le bassin bloqué, en fait, l'état de transe, lui-même étant en transe, a été capable de faire les mouvements qu'il fallait pour débloquer son bassin. En fait, l'état de transe lui a appris.
L'automédication.
Oui, c'est ça. Donc, on pense que les systèmes d'auto-guérison sont amplifiés dans cette... Mais ça fait pas des miracles non plus, hein.
Corinne Sombrin signe donc mon initiation chez les chamans, chez Pocket, et qui est le point de départ de ce film Un monde plus grand, dont on continuera de parler jusqu'à midi et demi. Merci Corinne. Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Tanguy, la pollution numérique est une triste réalité pour
vous. Oui, c'est bien ça. Dès qu'on se connecte à Internet, on peut lire à cause des serveurs qui stockent les données. Là, par exemple, sur mon smartphone, je suis sur Europe1.fr. C'est une action humanitaire que je fais. Eh bien, le climat vient de prendre 1 degré, encore un quart d'heure comme ça, et dans 3 semaines, il fait 32 à Dijon. Méfions-nous.
Bon, éteignez votre portable et revenez après-midi.
Allez.
Oh.
Oui.
La bande originale avec les cadeaux.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour monsieur.
Albert Algou.
Bonjour.
Jérémy Crédville.
Bonjour.
Tanguy Passureau. Et nos invités Fabienne Berthaud et Cécile de France. Un monde plus grand, cette histoire d'amour triste, ça démarre par un deuil. Ça pourrait être...
Mais ça finit bien.
Dites pas tout.
Mais elle est pas triste. Elle
un deuil. J'ai dit triste, mais ça démarre par un deuil.
Il y a des moments très drôles aussi.
Je ne voulais pas.
C'est un peu caractéristique.
À la fin, se transforme en loup, elle épouse un ours.
C'est une espèce de thriller spirituel, en fait.
Et entrecoupé de scènes de Karate Kid, parce qu'à un moment, je vais dire, un ras-le-bol de la grand-mère, quoi, qui l'envoie couper du bois, chercher de l'eau à l'autre bout du monde, en se disant, quand est-ce qu'elle va commencer mon initiation? Est-ce qu'elle se foutrait pas un peu de ma gueule et elle serait pas en train de m'exploiter, quoi? C'est un peu.
Et puis, avec des animaux, vous êtes allé tourner en Mongolie avec des cerfs.
Des rennes.
Avec des rennes.
Oui,
et des rennes voleuses de fringues. On ne saurait jamais trop les remercier d'ailleurs.
Les rennes klepto.
Ça fait partie de la magie de là-bas.
Mais qu'est-ce qu'ils ont toutes à nous renverser toute l'eau de tout ce que j'ai pas. Oh là là, puis tous les dessins, ça va être une catastrophe.
Tout va bien.
Ok. Est-ce qu'il y a eu des scènes qui ont été plus difficiles à tourner pour vous, alors que ce soit en termes de réalisation ou en termes de jeu, Cécile de France?
Non, mais justement, on parlait de Fabienne qui filme les animaux. Et il y avait une scène très difficile à faire pour moi, où je devais parler de mon mari qui était mort et tout. Où on cherche comme ça avec elle, cette espèce de vérité, on peut pas fabriquer avec elle. Et en plein milieu de la scène, donc en plein milieu de la steppe, comme ça, tout d'un coup, il y a le troupeau de rennes, il y a les tsétanes qui reviennent avec leur troupeau de rennes, mais eux, ils vivaient leur vie. Et qui débarque, et là elle fait « Oh, il faut les filmer, les rennes !» Et donc elle m'a laissé en plan, toute seule, avec mon émotion, avec vraiment une scène difficile, et puis elle est revenue. Bon allez, on y retourne. Oh, c'était super les petits rennes.
Non, mais parce que t'étais là, mais les rennes, ils allaient partir, donc je privilégie l'urgence.
Les rennes, quoi.
Non, mais c'est super.
Moins bien traité qu'un renne. Ouais,
non. Non, parce que c'est difficile de tourner avec des animaux, mais aussi des non-acteurs, puisque la majorité des gens qu'on voit dans le film ne sont pas acteurs.
Et vous, Fabienne, quelle a été la scène la plus délicate pour vous à tourner?
J'appréhendais beaucoup les scènes de transe, en fait, les scènes de cérémonie, parce que déjà, on était dans un tout petit tipi, qu'il fallait cette tension, et ça me rendait malade avant de les aborder. Je me souviens dans quel état j'étais physiquement, même. J'étais déjà, je sais pas, j'avais un trac fou.
Et vous-même, vous n'avez pas été sensible ni à la musique, ni aux vibrations?
Mais non, parce que, en fait, j'en sais rien, mais comme je suis avec ma caméra et que j'ai l'impression d'être actrice en même temps que la scène...
Il n'y avait pas de lâcher prise, quoi.
Je danse avec et je suis à l'intérieur et je dirige en parlant, donc je suis complètement... je dois être dans un état spécial, en fait.
Albert?
C'est un compliment que je voudrais faire, parce que j'ai retrouvé dans les scènes de transe, comment dire, la puissance, l'émotion, l'intensité d'un récit qu'avait fait à cette antenne dans une émission, j'avais interviewé Jean Mallory, qui est un scientifique, géologue, ethnologue, c'est le créateur de la collection Terre humaine, et scène de transe chez les Inuits, et c'était bouleversant, et j'ai retrouvé la même émotion, la même intensité, et ce qui va dans le sens de tout ce qui a été dit jusque-là sur la justesse de ce film et sa beauté.
Ce film-là, ce sont deux films en un. On peut aussi bien voir le côté justement chamanisme et expérience transcognitive et en effet l'histoire d'amour très forte qui lie votre personnage de Corinne avec Paul, ce musicien, ce violoncelliste. Un peu de douceur avant Tanguy Pastureau. Tanguy, la mode aujourd'hui est à la lecture de vidéos en streaming.
Oui, et c'est pratique parce que quand vous avez un enfant, ces êtres malfaisants à qui on doit l'existence des Kids United, vous pouvez le coucher, le border, lui dire « Sois sage, sinon je dis à Cédric Villani de venir avec ses vieux vêtements, ses cheveux sales, il va te manger. » Puis, une fois revenu au salon, qu'il soit 20h14 ou 21h02, 5h39 du matin, pour le fils de David Guetta qui s'est calé sur son père, vous démarrez votre série préférée. Alors que quand Albert Algou était petit, c'était différent déjà à la télé, ça n'existait pas, et de toute façon, les gens n'auraient pas pu en acheter parce que la crise de 29 qui venait de se dérouler avait ruiné la population. Le soir venu, ces rustres faisaient l'amour à la bougie, au sens littéral du terme. Les dames ayant vite compris qu'une bougie, c'était plus vaillant qu'un mari. Mais le sexe, c'est fini depuis que Netflix nous abreuve de séries. Et il n'y a même plus besoin de zapper, les épisodes s'enchaînent tout seuls. Un ami manchot me disait hier « Fais affonger ma vie hein, ». Il parle comme ça parce que sa seule façon de tenir ses clés, c'est de les foutre dans sa bouche. Tout ce qu'on faisait d'autre avant, c'est terminé. Le tricot terminé, hein, si bien que les nouvelles générations d'enfants sont habillées normalement. Hein, nous, nos mères, on leur demandait un pull avec un robot. Deux mois plus tard, sur le bide, on avait un presse-purée. Ils disaient, c'est un robot. Hein, la lecture terminée, les 6 derniers lecteurs sont enfermés dans la grande librairie de France 5 et se nourrissent des pellicules de François Bunel. Les soirées entre amis, terminées, parce que si vous avez vu tout Breaking Bad, à côté vos copains qui vous racontent leur week-end à l'île de Léron, ça paraît moins rock'n'roll que Jean-Yves Le Drian en pleine sieste. Oui, tout ça appartient à l'ancien monde. Désormais, on regarde des séries, on ne fait plus que ça. Ce midi, j'ai failli ne pas venir parce que je regarde The Crown, la série sur la reine Elisabeth II, qui comporte donc 130 saisons. Elle est increvable. Le prince William sera enterré depuis 8 ans, qu'elle se décidera à commencer la capoeira. Mais le souci, c'est que comme toute activité humaine, le streaming génère de la pollution. Et celle-là, elle est énorme. Un épisode de la fête à la maison, c'est l'équivalent de toutes les vaches d'Auvergne qui flatulent. Un rapport dit qu'en 2018, 300 millions de tonnes de CO2 ont été produits par la consommation de vidéos en ligne. Donc à ceux qui regardent cette chronique en replay sur YouTube, je leur dis, vous êtes des criminels. C'est à cause de vous qu'on va tous y passer. Qu'est-ce qui vous empêche de m'écouter en direct à midi 10 comme les vieux? Les services de vidéo à la demande Netflix, Amazon, rejettent, c'est véridique, autant de gaz à effet de serre que le Chili. Il faut donc fermer ces services, remettre l'antenne râteau sur le toit de chez ta tante et finir les restes de la veille devant Louis la brocante. Comme avant, c'était une vie nulle. Hein. Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé? C'est ça qui a poussé les gens à se tourner vers l'inceste ou les meetings de Debout la France. Mais au moins, on ne polluait pas.
Mais est-ce qu'on sait qui sont les pires pollueurs par tranche d'âge?
Eh bien Nagui, ce sont les jeunes, ces gens purulents qui sentent la sueur. 63% des utilisateurs de streaming sont des 15-34 ans. Si leurs parents avaient su ça, ils n'auraient pas dit ce soir de 1999, allez, on met pas de capote. Parce qu'ils sont en train de dévaster la planète. Ah ça, pour défiler avec Greta Thunberg en éclatant ses boutons d'acné sur les CRS, il y a du monde. Mais si c'est pour se farcir juste après l'intégrale de la Casa des Papels, c'est pas la peine de venir chouiner. Oui, les vieux riches ont des SUV avec des pare-buffes qui peuvent défoncer des rhinocéros, voire Teddy Riner. Mais le soir, ils sont tranquillous devant des racines et des ailes, en se disant que vu du ciel, même le limousin paraît glamour. Quand je pense, Nagui, que lors de la soirée pour la Terre sur la 2, vous avez déclaré que les acheteurs de SUV qui, pour le même prix, pouvaient se payer des voitures électriques, étaient de gros beaufs. Devant une Anne-Elisabeth Lemoine effarée qui a dit non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Ce à quoi vous a répondu, si, si. La pauvre a la même vie que l'attachée de presse de Béatrice Dalle quand elle a dit à un journaliste, toi t'es pas la moitié d'un con. Mais Nagui, je vous le dis, mais vous vous perdez. Déjà parce qu'un SUV, ça consomme, mais on est bien dedans. Hein, avec le mien, je tourne autour de la maison de la radio, j'ai déjà écrasé 10 intermittents du spectacle, la voiture n'a pas un pet. Hein. Mais aussi parce que la plaie de la société, ce sont les jeunes. Nabila, rien qu'avec les vidéos de son bébé sur Instagram, où on voit le lardon à l'été, alors qu'en lui-même, il se dit, je sais pas trop par où attaquer. Pollue plus que 100 000 SUV. Ne vous trompez pas de combat, Nagui. Il vaut mieux se mettre à dos 3-4 jeunes qui se partagent un abonnement Netflix, fixe que les mecs blindés de thunes qui vont les acheter, les lots de 4 boîtes de Colin surgelés du Captain Igloo dont la pub a été diffusée avant le JT. Mais tout ça, c'est en train de changer. Parce qu'après le flight shame, vous savez, c'est la honte de prendre l'avion qui pollue, hein, les gens ont honte, donc ils ne prennent plus. Arrive, nous dit la presse, le digital shame. Hein, des gens culpabilisent quand ils regardent une vidéo de chat. Non pas parce qu'ils n'aiment pas les chats. Le chat est indépendant, il a le poil roux. Le poil doux, hein, comme François Bayrou. Ou comme François Baydou. Hein. Mais parce qu'ils réalisent qu'ils utilisent une ressource rare pour rien. Là, on se retrouve, pour mater encore plus de vidéos, à avoir la 5G 100 fois plus polluante que la 4. Et ça, pour avoir une définition encore meilleure. Mais la HD, c'est atroce. David Pujadas en HD, il a 103 ans. Hein, la première fois que j'ai vu ces ridules en HD, j'ai cru que c'était l'émission Les Ouvriers de l'Extrême, un jour où ils avaient filmé avant le chantier. Bon, sinon, vous pouvez aller au cinéma, ça ne pollue pas. En tout cas, tant que vous n'y allez pas, en SUV, bien sûr.
Merci, Tanguy Pastor.
La bande originale, Maggie, sur France Inter.
Je ne sais pas comment tu vas aller en Alsace, à Sossheim, le 16 novembre, Tanguy.
À pied.
Allez, question concernant la culture et ce qui se passe dans la culture. On y va. Ça marche pas. Bon, okay,
jingle
c'est pas grave. Mais on va mettre la boucle. Julie Delpy a joué dans la trilogie de Richard Linklater, Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Elle vient de raconter qu'entre les trois volets, une chose avait changé. Quoi ?
Les mots après Before ?
Non.
Son cachet.
Before Sunrise, Before Sunset, Before. Pardon ?
Son cachet, son
exactement.
Salaire.
Exactement, son cachet, son salaire, son cachet qui était un dixième de celui d'Ethan Hawke, puis la moitié du même.
Wow, ça y est, c'est lancé.
J'ai rien fait, moi. J'ai pas bougé.
Si il a des pouvoirs, il est un peu chaman.
Mais c'est une émission spéciale.
Ça, je te le confirme. Ouais. Le problème du cachet dans le monde du cinéma, Fabienne, on en entend parler. C'est que aux États-Unis ou c'est un vrai sujet homme-femme, en tout cas, de la parité en France?
Ah non, je pense que il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les choses s'égalisent davantage.
Y compris pour une réalisatrice?
Ben alors moi c'est pas pareil parce que je fais toujours des films qui sont un peu difficiles. Je rencontre beaucoup de difficultés à être financée moi.
Mais pensez-vous rencontrer des difficultés parce que vous êtes une femme ou est-ce que...
Non.
D'accord.
Non, pas du tout. Je crois que c'est parce que...
La nature du projet. Ouais.
Oui, je pense que c'est d'abord les projets que je décide de faire qui sont pas si simples au départ. C'est vrai que ça fait peur, par exemple ce sujet-là, le chamanisme, tout ça, ça fait... Ça va pas être ridicule. J'ai entendu des tout et son contraire financiers là-dessus.
En revanche, il y avait deux personnages à l'affiche du film vraiment à égalité, un homme et une femme. Vous militeriez, j'imagine, pour qu'ils puissent payer la même chose.
Bah, ou... Évidemment.
Ouais, voilà.
Et vous, Cécile, vous avez trouvé ça humiliant d'être moins payé que les reines.
Quelle est la particularité de la nouvelle mannequin star qui s'appelle Lil Miquela?
Elle a pas de bras.
Non. Elle est virtuelle.
Exactement.
Ouais. Wow. Il y en a beaucoup. Hein. On les suit sur Instagram. Ce sont des mannequins virtuels qui n'existent pas.
Je croyais que tu n'allais pas sur les réseaux.
C'est les réseaux qui vont à lui.
Pour pas qu'on se trouve. À ce propos des réseaux, vous n'êtes pas du tout Cécile de France, ni sur les réseaux, ni portable, ni internet, rien.
Ben non, je n'ai même pas d'ordinateur.
Vous n'y êtes pas, c'est très décevant.
Mais ça veut donc dire que les séries dont on parle, celles qui sont sur les plateformes, vous ne les connaissez pas, vous ne les voyez pas?
Si, quand même. Puis j'en fais des séries. J'ai la saison 2, j'en profite pour dire que la saison 2 de Young Pope sortira en janvier, je crois. Ouais. De New Pope.
Vous jouez la responsable du marketing du Vatican.
Ouais. Non, mais je suis un peu old school. Voilà.
Non, mais c'est par souci de ne pas être embêté ou par souci de ne pas polluer?
Ah, bah c'est que c'est pas ma priorité.
Parce que c'est récent la communication sur la pollution du digital. On pensait au contraire, on n'imprimait pas, il n'y avait pas de papier, donc c'était propre, on pouvait avoir toutes les tablettes possibles et imaginables. On avait tous cette idée-là. Puis d'un coup, on se dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a des serveurs derrière tout ça, il y a des ordinateurs qui tournent. Ouais. Et que même certaines plateformes, et je crois que c'est Facebook, qui déplacent les ordinateurs au nord de la Terre, près du pôle Nord, pour rafraîchir les ordinateurs, parce que justement, ça se surchauffe.
Oh là là.
C'est flippant, non?
Et puis moi, je crois surtout au rêve, à l'ennui, au voyage qu'on fait dans notre imaginaire, qui peut provoquer des choses merveilleuses pour notre vie.
Ça veut dire quoi? Pas de tablette chez vous?
Si, il y en a, mais moi, j'en avais pas, évidemment, quand j'étais plus jeune, et j'ai rêvé ma vie. Les voyages en train, je regardais par la fenêtre, je regardais le paysage et je partais. Je partais dans mes rêves, dans ce que j'allais vouloir faire de ma vie. Et c'est ça qui a déclenché toute cette vie merveilleuse que j'ai, je pense.
C'est important de s'ennuyer pour un enfant en plus.
Bah oui, c'est les moments où vous inventez.
On rêve.
Voilà, on rêve.
Exactement.
Je me suis bien fait chier en Bretagne pendant 20 ans. Bah, vous voyez comment je suis aujourd'hui.
Ça dépote hein, maintenant.
Tu te rattrapes.
Alors, j'ai une proposition à te faire, Tanguy Pastureau, toi qui es le plus riche de nous. 7,5 millions de dollars. En plein cœur de Seattle, une maison parfaitement entretenue, construite en 1902, avec des murs en briques, vue sur le lac de Washington, ses cascades, une opportunité qui se présente qu'une fois dans une vie. Cette maison a quelque chose de particulier.
Elle est hantée?
Quoi?
Peut-être. Elle est virtuelle.
Non.
Quelqu'un d'important a vécu dedans?
Exactement. Ouais. Et même pire, est mort
dedans.
Kurt Cobain.
Ah mince. Ah,
Kurt Cobain.
Ils ont nettoyé le mur?
Vous.
Ah, ouais, classe. C'est sinistre.
Est-ce que vous croyez aux fantômes?
Oui.
Fabienne, oui.
Moi, je crois à tout, moi.
Même
en Maggie. J'adore croire à tout.
Vous avez vécu des expériences de communication avec le delà?
Moi, non, mais alors j'ai été un peu bercée par ça parce que mes parents avaient une maison en Normandie, complètement isolée, et j'ai été bercée par des histoires de fantômes.
Donc, sans jamais avoir peur, enfant.
Eh bien, je n'ai pas pu dormir dans cette maison seule pendant des années.
D'accord.
Et j'ai surmonté le problème et maintenant je peux y aller tranquillement et j'adore ne sentir que je ne suis plus toute seule.
Mmh. Bah lui aussi est habité, c'est Daniel Morin.
Alors en ce moment il y a un animateur télé qui m'intrigue. Oui, Mathieu Delormeau me turlupine. Le souffre-douleur de Cyril Hanouna me plonge dans l'interrogation. Il a dit à propos de Nabila, qui vient d'accoucher à Paris, elle a dit qu'elle allait vivre à Dubaï et qu'elle accoucherait là-bas. Bah finalement, elle a eu son enfant à Paris, elle profite du système. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre, Delormeau? Elle est française, Nabila, elle accouche à Paris si elle veut. Bah oui, son gamin, il va profiter des services de santé français gratos. Et alors? Il est français aussi, son fils, pourquoi il profiterait pas des services de santé français? Bon ben, dites-moi, Nagui, vous qui connaissez les gens importants.
Pas lui.
Hein, il serait pas un peu con-con, Mathieu Delormeau? Non, sans blague, un peu con-con, non? Parce que on peut être animateur télé sans être con-con. Vous, Nagui, vous n'êtes pas fut-fut, mais vous n'êtes pas pour autant con-con. Je suis très surpris qu'on laisse encore parler ce jeune homme. Hein. Il est agréable à regarder physiquement, mais sa bouche devrait rester fermée. Bon, fermez aussi cette parenthèse, revenons à plus intéressant, beaucoup plus intéressant, Un monde plus grand, votre film, Fabienne Berthaud et Cécile de France. Waouh, la Mongolie. Quelle claque, quelle nature, quel paysage, quelle verdure. Une avalanche de nature préservée qui tombe pile poil avec la tendance actuelle. Vous le savez ou pas, depuis hier, selon une étude du site d'actualité économique Business Insider, la préoccupation principale des Français n'est plus le chômage, mais l'écologie. Oui, depuis votre émission, Nagui, les Français se sentent très concernés par la nature et l'environnement.
Ça commence avant.
On veut tous se reconnecter avec les éléments. On veut retrouver le vent de liberté qui souffle sur les grands espaces. Et quoi de plus dépaysant et spacieux que la Mongolie? Non mais les plaines mongoles, c'est d'une beauté, du vert à perte de vue jusqu'aux montagnes. Et derrière les montagnes, encore du vert jusqu'à la prochaine montagne. Et derrière, bah du vert, encore du vert. Bah si t'aimes pas le vert, laisse tomber la Mongolie, hein. Enfin, en Tunisie, hein. Et pour qui aime le vert, c'est le paradis. Le bon plan, ça doit être de s'acheter un petit bout de terrain là-bas en Mongolie. Tu dois être bien là-bas, coincé entre la Russie et la Chine, deux bonnes démocraties rigolotes. En plus, le prix au mètre carré, ça doit pas être dingo, hein. Je pense qu'avec un salaire moyen parisien, tu peux te payer un petit lopin d'environ 100 000 hectares. Alors Nagui, ça l'intéresse. Mais bon, Nagui, 100 000 hectares, ça fait juste. Du coup, il a fait une offre. Pas en Mongolie, mais juste à côté. Il a fait une offre sur le Kazakhstan voisin. Vu le prix du mètre carré, il veut racheter le pays en entier. Alors, et puis ce qu'il y a de dingue dans le film, c'est le truc chelou là, le chamanisme. Tu bois de la vodka, tu fais fumer des herbes, tu joues une musique bizarre, tu portes un costume de 30 kilos fait de clochettes et de haillons, tu tapes sur un tambour et bim, l'esprit d'un animal vient en toi. Vous, c'était le loup. Et en plus, on peut communiquer avec les morts. Alors j'ai essayé. C'est vrai que c'est dingo. J'ai bu 30 mojitos. J'ai mis un album de Mylène Farmer. J'ai enfilé le costume Reine des Neiges de ma fille. Et j'ai dansé. Et j'ai dansé en attendant l'esprit du loup. Bon, c'est pas le loup qui est venu. Hein. Je crois que j'ai attrapé l'esprit du mulot. Mais bon, c'est un bon début. Du coup, j'ai pas hurlé à la mort. J'ai juste grignoté les pieds de ma table basse. Et puis mon esprit s'est mis à flotter. Et j'ai rencontré des morts, moi aussi. Bon, pas de chance. Je suis tombé sur Hitler. Sympa, mais sans plus. Hein. L'échange a été bref, à base de...
Guten Tag.
Oui, Guten Tag. Ça va la Pologne? Jawohl, ça va mieux, ouais. Bon, ben, au Wiedersehen. Oui, c'est ça, au Wiedersehen. Puis reparti en s'envolant et en chantant Ich bin ein kleiner Schmetterling. Peu après, c'est Émile Louis qui est venu me rendre visite, apparemment. Ouais, il n'avait rien à foutre de voir. Ouais. Non, ben, attendez, il s'est approché de moi, il m'a dit, comment va Nagui? J'ai répondu, bah, il va bien. Il m'a dit, tant mieux, embrassez-le pour moi. Puis il est reparti en fauteuil roulant. Expérience intéressante, mais je crois que je vais en rester là. J'ai rien contre les fantômes, ni les fantômes d'Hitler, mais quand l'esprit du mulot arrive, ça me coûte une blinde en pied de table basse. À demain.
Merci.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Le film s'appelle Un monde plus grand, il sortira ce 30 octobre. Qu'as-tu retenu, Leïla, de ce film, de cette émission, de ces rencontres ?
Oh là là, moi ça m'intrigue énormément. Je suis assez jalouse de l'idée de pouvoir vibrer au son du tambour.
Tu voudrais l'essayer ?
Ah oh ouais, j'adorerais.
Daniel Morin ?
Moi, j'en conclus que, après avoir vu ce film, on peut rester magnifique, divinement belle, même sans maquillage.
Albert Algou.
L'image des ciels de Mongolie, absolument magnifique.
Tanguy Passureau.
Moi, vous savez, pendant des années, j'ai fait des fechtounos comme ça en Bretagne, et les gens font comme ça pendant 10 minutes, et vous, enfin, pendant 10 heures, et vous rentrez en transe d'une certaine manière.
Vraiment aussi.
Il faut en sortir, voilà, on mange une petite galette de saucisse, et ça va tout de suite mieux, mais voilà, donc je connais la transe.
Dans le portrait de la jeune fille en feuille, c'est
une expérience personnelle.
Jérémy.
Non, que ça peut naître d'une résonance ou d'un son, et moi, c'est vrai que quand mes voisins du dessus commencent à faire un peu de bruit, ça me met dans une
en transe.
Mais par contre, j'arrive pas à toquer à leur porte pour leur dire. Je reste bloqué à cette porte.
Vous aimeriez entendre quoi comme commentaire, Fabienne Berthaud, d'un spectateur qui sortirait d'un monde plus grand ?
Je sais pas ce que j'aimerais entendre, mais j'en entends tellement de belles choses. Comme là, en ce moment, je suis en train de faire toutes les villes de France pour faire des avant-premières. Et je n'ai jamais entendu autant de beaux témoignages après un film que celui-ci. Donc c'est merci, merci de l'espoir, merci de parler de la reconnexion avec la nature, merci de parler de ces choses essentielles et de voilà, c'est juste tellement beau que je les entends tous les jours déjà, les choses que j'aimerais entendre.
Et vous, Cécile, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de ce film ?
Bah, que les gens ressentent la même chose que moi quand j'ai vu le film, un effet de catharsis. C'est-à-dire que, voilà, c'est si les émotions et les larmes qui viennent, ce ne sont pas des larmes de tristesse, ou c'est des larmes qui nous purifient, qui élèvent l'âme, qui nous font du bien.
Des excuses à présenter, Daniel
Morin. Oh, bien sûr. Désolé déjà pour le producteur du premier film de Fabienne Berthaud, qui n'avait pas senti que Diane Kruger allait devenir une grande comédienne. C'est ce qu'on appelle, en langage chamanique, avoir le flair du blaireau. Désolé pour Leïla, qui hier soir encore croyait être en transe. Non, Leïla, c'est juste qu'après 4 litres de ton cocktail maison, Calva, Popper, c'est maintenant pétrole, il y a comme qui dirait un trop-plein. Désolé enfin pour la police française, qui ne pourra pas compter sur l'aide de la chamane Corinne Sambrin pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai tenté de lui demander à la pause, mais elle s'est mise en transe et je me suis pris un coup de patte.
Merci beaucoup Fabienne, merci beaucoup Cécile pour cette visite et pour le film Un monde plus grand le 30 octobre au cinéma. Demain, Pierre Arditi sera là avec sa connaissance du vin, oui, et en France, puisqu'on va se promener aussi dans les régions françaises et dans notre terroir. Tout de suite, des carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée, bonne émission Philippe.
Merci Nagui.
Salut.